La bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. 10 épisodes qui retracent la saison 2 des racines de la créativité. Je suis Pascal Roby, bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue pour ce 6e épisode de la bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. Et aujourd'hui, on va se demander comment se lancer dans la création de contenu. Peut-être que tu crées déjà du contenu, peut-être que t'en as rien à taper de ce que je vais raconter, mais peut-être que tu te poses des questions et que tu te dis « Ah, mais est-ce que c'est une bonne idée ?» Que tu sois créateur de contenu ou pas, je suis certain qu'il y a des choses que tu vas apprécier dans ce nouvel épisode. Mais d'abord, si c'est pas encore fait, abonne-toi aux racines de la créativité, parce que ça fait toujours plaisir. Pour cela, tu t'abonnes à ta plateforme d'écoute préférée, Deezer, Apple Podcasts, etc., etc. Et si vraiment t'as pas envie de louper la sortie du nouvel épisode tous les vendredis à 18h, abonne-toi à la newsletter qui se trouve juste en dessous dans la description. Alors, comment se lancer dans la création de contenu ? Tu peux avoir la méthode de Tonton Pascal qui est « Ouais, vas-y, lance-toi, et puis tu verras en chemin. » Ça, ça rejoint un peu la définition que disait Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, qui disait « Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette au bord d'une falaise et qui construit un avion pendant sa chute. » C'est un peu, c'est un peu ça l'idée. Tu peux faire ce genre-là. Après, bon, si vraiment tu te poses des questions, je vais te partager le témoignage de 5 invités du podcast qui se sont lancés dans la création de contenu et qui le vivent plutôt bien d'ailleurs aujourd'hui. Tu as par exemple Dan Noël qui, lui, s'est lancé sur TikTok alors qu'il est absolument pas la cible. Mais alors, pas du tout. Et lui, il se dit « Ok, je suis absolument pas la cible pour TikTok et pourtant, je vais me lancer sur ce réseau social. » Qu'est-ce qui le pousse à se lancer sur TikTok alors que c'est absolument pas la cible? Ensuite, on va découvrir comment améliorer ta création de contenu quand on est sur LinkedIn. Et ça, on va le voir grâce au camarade Christopher Piton. Juste après, on va découvrir le double effet qui se coule en lançant un podcast. Et ça, ce sera avec le camarade Alexandre Vaquier du podcast Les Héros de la Vente. Et enfin, tu vas découvrir la nouvelle façon, un peu étrange, mais qui va rapidement devenir incontournable pour créer du contenu. Et ça, ce sera avec le camarade Elliot Meunier. Mais tout d'abord, tu vas découvrir en quoi la création de contenu, c'est une valeur vraiment sûre pour l'avenir et une valeur beaucoup moins volatile que le Bitcoin. Et ça, tu vas le découvrir tout de suite avec le camarade Thomas Burbidge. C'est parti.
Je pense qu'on a vraiment du temps de faire beaucoup de choses dans notre vie. Quand on regarde ce qu'on est capable de faire, je le disais tout à l'heure, 2016, là on est en décembre 2020, je me lance en septembre 2016, on est en décembre 2020. Tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 3-4 vies différentes dans ces 4 années et quelques. Et quand je regarde, j'ai fait l'exercice l'autre jour, je cherchais la photo que j'ai postée sur LinkedIn à mon premier jour où j'étais 100% indépendant, donc c'était septembre 2017, août 2017 quand j'ai fini mon alternance. Et du coup, j'ai scrollé tout mon LinkedIn pour retrouver cette photo, donc je suis redescendu 3 ans en arrière. Et du coup, j'ai vu passer presque, comme je communique beaucoup et je crée beaucoup de contenu, j'ai vu passer presque toute ma vie des 3 dernières années et je me suis dit, c'est incroyable tout ce que j'ai fait en seulement 3 ans, quoi. Seulement 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans et tout ce que j'ai fait en 26 années, je me dis, j'en ai encore des créneaux de 0 à 26, donc de 26 ans, j'en ai encore 2, voire 3 avant la fin de ma vie. Et avec tout ce que j'ai fait là sur les 3 dernières années et que, comme toutes les choses de la vie sont exponentielles, j'ose même pas imaginer ce que j'aurais fait dans les 3 prochaines et les 3 d'après et les 3 d'après et les 26 d'après. Ça va être incroyable. Du coup, il faut aussi se dire, quand on prend conscience que les choses sont limitées et que donc on décide d'investir notre temps limité dans les choses qui sont vraiment importantes pour nous, l'effet exponentiel de s'intéresser à ces trucs qui sont vraiment importants pour nous nous permet à terme de faire des choses incroyables. Et c'est le truc de si tu investis tes ressources, ton mental, ton corps physique, tes réflexions, ton apprentissage tous les jours dans les choses qui te passionnent, c'est inévitable, inévitable que sur le long terme, pas sur l'échelle de 3-4 semaines ou de quelques mois, mais sur 10 ans, on fasse des choses de fou. Parce que 10 ans d'apprentissage et de focalisation délibérée et répétée, c'est énorme l'effet que ça peut avoir sur une vie. Et on mesure pas, je pense que le cerveau humain est pas forcément capable de mesurer ça parce qu'on comprend pas les exponentielles avec notre cerveau limité.
Non, c'est pas possible. Et puis, bah, on va tranquillement enchaîner, tu vois, sur la partie création de contenu. Parce qu'en fait, ce que tu partages,
C'est
c'est,
aussi l'effet de la création de contenu, mais grave.
ben, en fait, c'est de l'effet cumulé. Et moi, je dis souvent que je ne crée pas du contenu, mais je crée un capital. En
Grave.
fait, c'est un capital, en fait, que je crée. Donc, moi, en plus, je fais du mailing quotidien. Et j'ai partagé il n'y a pas longtemps à mes abonnés que, voilà, j'avais publié plus de 100 mails en 3-4 mois. Et je me dis, t'imagines, j'expliquais en fait à mes abonnés, je leur disais, mais vous voyez, en 100 jours, il y a certains de mes camarades créateurs de contenu qui ont besoin de 52 semaines pour créer 52 newsletters. Moi, en 100 jours, j'ai produit 2 ans de newsletters. Donc, c'est pour te dire, tu vois, quand tu répètes une action tous les jours, en fait, tu crées du capital. Et derrière, ce capital-là, ce contenu, je peux le réutiliser, je peux le recycler. C'est-à-dire que je peux le réinvestir, soit par exemple, je peux le partager sur LinkedIn, soit je peux le transformer en podcast, soit je peux compiler des mails et en faire un article, ou même en faire un livre. Bref, c'est quelque chose que tu perds jamais.
Ouais. C'est
C'est.
Naval Ravikant parle beaucoup de ça. Je sais pas si tu connais Naval Ravikant, mais si vous le connaissez pas, ceux qui écoutent, je vous invite vraiment à aller écouter. Tapez juste Naval et vous allez trouver podcast, plein de choses. Il parle beaucoup de. En gros, lui, ses deux sujets, c'est wealth and happiness. La richesse au sens pas seulement financier, mais aussi financier, et le bonheur. Et c'est un investisseur de la Silicon Valley, un angel investor. Et il parle du coup de quand on développe une activité, il faut se focaliser sur les effets de levier. Et c'est comme ça qu'on accède vraiment à la richesse au plan financier. Et les effets de levier, en gros, il dit historiquement, c'est le labor en anglais, donc le fait d'avoir des gens qui travaillent pour nous. C'est un effet de levier multiplicateur qui fait que on n'est plus seul à faire les choses et on a d'autres gens qui font des choses et du coup on peut faire plus de choses. Le capital est l'autre historique où quand on accède à du capital, ben on le réinvestit et on a des parts dans des entreprises ou dans des actions ou ce genre de choses qui travaillent pour nous pendant que nous on ne travaille pas. Et c'est ça en fait les effets de levier, c'est construire des choses qui travaillent pour nous quand nous on ne travaille pas. Et il dit ça, c'est les principaux effets de levier entre guillemets d'avant, mais qui demandent de la permission. On ne naît pas tous avec du capital, on n'a pas tous un capital directement disponible et on doit avoir quelqu'un qui veut bien nous le donner, la banque, un investisseur qui nous donne du capital, enfin bref, ce genre de choses. Et on n'a pas non plus tous des gens à notre disposition prêts à travailler pour nous, sauf si on a hérité d'une entreprise ou ce genre de choses. Mais par contre, il y a des effets de levier qui ne demandent aucune permission dans notre nouveau merveilleux monde avec Internet. Ces choses qui ne demandent aucune permission sont le code. Donc développer des systèmes et des choses basées sur du code informatique, sachant qu'il y en a déjà plein à disposition qui peuvent travailler pour vous, dans le sens de, je pense à Zapier qui permet d'automatiser tous les systèmes, les SaaS entre guillemets, c'est ça en gros. Software as a service, c'est tu payes un service pour avoir un robot qui travaille pour toi. Donc tous les deux, on utilise toujours, enfin les créateurs de contenu, on utilise tous ce genre de choses. Mais du coup, ça c'est le premier, le code, et le deuxième c'est les médias. Les effets de médias, donc la création de contenu. Et moi aussi, je pense exactement comme toi. Quand je pense à où j'investis mon temps, où j'investis mon argent, où j'investis mes ressources mentales et où j'investis mes ressources physiques, donc mon énergie dans ma journée, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, l'endroit où j'ai principalement investi, c'était dans, du coup, les médias. Mon podcast, qui est, du coup, aujourd'hui, à presque 60 épisodes. Mon deuxième podcast avec mes réflexions quotidiennes. Mes newsletters que j'écris depuis 3-4 ans, mes chaînes YouTube, mes contenus sur les réseaux sociaux, bref, toutes ces choses, comme tu le dis, qui sont des effets de levier sur lesquels on capitalise et qui travaillent pour moi pendant que je dors. Mon podcast où il y a 60 épisodes, ça fait plus de, je sais pas, 60-65 heures de contenu. il y a des gens qui m'ont écouté parler pendant 65 heures sans que moi j'investisse une seule heure dans le fait de parler avec eux. Ce qui fait qu'on a une relation forte sans que moi j'ai jamais eu besoin de travailler, de parler avec eux. Évidemment, j'ai trop envie de pouvoir parler avec eux et aller encore plus loin parce que ça ne remplace pas le lien humain, quoi. Mais ça crée des choses en plus et ça permet de dupliquer. Et ces effets de levier-là, ils sont incroyables sur la création de contenu et je pense qu'on sous-estime encore à quel point c'est le cas. On parle très souvent de, tu le vois passer, faut créer du contenu pour le référencement naturel, pour éduquer sa cible, etc. Mais je pense que la vraie valeur ajoutée, c'est à l'échelle de 10 ans, de faire ce qu'on fait là tous les jours, toutes les semaines, même si tu écris un mail par semaine, et encore le mail, c'est à une communauté fermée. Mais même si tu fais une fois par semaine pendant 10 ans, l'effet cumulé de ça, plus l'effet de levier de ça, c'est immense.
Il y a un réseau social sur lequel apparemment, moi j'y suis pas, mais apparemment pour lequel t'es tombé en amour, c'est TikTok.
Ouais, alors, alors tu sais, alors y a plusieurs choses, la plusieurs couches là-dedans. La première couche, c'est ma couche de métier. C'est-à-dire que en tant que marketeur, par rapport à mes propres affaires, par rapport à celles de mes clients, le but, c'est toujours, un métier du marketing, c'est de trouver là où est l'attention et là où elle est le moins chère. Et c'est vrai que, alors ça peut être hein, pécunier ou en termes d'énergie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, si tu dois regarder dans le panorama des réseaux sociaux, le meilleur retour sur investissement en termes d'audience, d'attention, de capacité à capter l'attention et à transformer en intérêt, c'est clair que là, tu ne peux pas passer à côté de LinkedIn, on en parlait, et de TikTok, parce qu'avec avec ce qui se passe sur cette plateforme, c'est vraiment dommage de passer à côté. Surtout qu'en ce moment, en plus, bah, ça accélère à une vitesse de fou, mais il y a plein de domaines dans lesquels il y a encore peu de producteurs de contenu. Et on sait que les premiers arrivés sont toujours les premiers servis. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a l'autre côté qui nous ramène à la discussion de ton podcast, le côté créatif, quoi. Je trouve que sur cette plateforme, quand on va jeter un coup d'œil sur TikTok au début, puis qu'on a 45 balais comme moi, on est complètement décontenancé. On se dit, waouh, c'est quoi ce machin? C'est un ovni. Moi, j'ai pas envie de faire le con. J'ai pas envie de ramasser des feuilles avec les dents. J'ai pas envie de danser comme un débilos. J'ai pas envie de faire du lip sync sur le dernier Aya Nakamura. Enfin, tu as le truc. Mais quand tu plonges un peu dedans, puis moi, j'ai toujours été comme ça. Je consomme du contenu frénétiquement pendant quelques jours pour vraiment m'imprégner. Et ça, c'est, tu parlais de talent naturel, j'en ai un, c'est de capter ça, capter la vibe, capter les comportements humains, capter la culture. Quand tu comprends la culture et que tu vois la créativité qu'il y a, notamment chez la génération Z qui utilise ça et tout, c'est un immense, d'une part, comme on l'a dit, bassin d'audience pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les marques, mais c'est aussi un immense bassin de créativité, d'inspiration et de fraîcheur, quoi. Et Dieu sait ce que ça fait du bien, quoi. Quand on quitte le monde ultra policé, position du flamingo, hein, tu sais, de la publicité, hein, du selfie pur instagrammesque, à la Kim Kardashian, pour aller dans une plateforme où finalement tu peux être toi-même, exprimer une vibration, être pleinement authentique, être plus brut de décoffrage, puis quand même faire, même si tu as zéro abonné, avoir une vidéo qui buzz et puis faire 1 million de vues, pour moi, je trouve que c'est juste complètement dingue, quoi. Raison pour laquelle je trouve que cette plateforme est extraordinaire, même si c'est vrai, c'est très compliqué de la comprendre, et surtout pour une marque ou une entreprise qui ne se destine pas forcément à la génération Z, de trouver une angle de vue, quoi. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de dingue et d'incroyablement rafraîchissant.
Ouais, non, non, c'est on sent chez toi en fait que bah, TikTok, c'est une source d'inspiration finalement pour toi. C'est vraiment une source d'inspiration dans laquelle bah, tu peux renouveler en fait ta créativité.
Ouais, alors ouais, il y a de ça. Et puis, alors, ce qui est dingue, tu vois, c'est qu'on est quand même tous, hein, on est tous des êtres humains et les êtres humains sont pleins d'ambivalence. Je trouve ça extraordinaire, rafraîchissant, comme tu viens de le dire très justement, pour moi c'est une immense source de captation de l'air du temps pour nourrir ma réflexion, ma machine à penser à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, la production de contenu sur TikTok, j'y vais, mais je suis pas encore totalement à l'aise. Tu vois, c'est ça qui est chouette. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien aussi. C'est comme la musique électronique. Naturellement, il y a plein de domaines dans lesquels j'ai une immense facilité naturelle. Ça vient de mon cerveau bizarre. Apprendre des choses, je peux lire un bouquin de 500 pages en 1 heure et demie, puis je le sais par cœur, par exemple. c'est très agréable quand tu fais des études. Tout ce que j'ai fait quasiment dans ma carrière, ça a toujours été quasiment lisse, naturelle, facile pour moi. Donc, par nature, je vais vers les choses compliquées parce que j'ai envie de progresser puis que j'aime bien me confronter à cet échec quand tu as des grandes facilités naturelles. Donc, pour moi, la musique, c'était pas facile. Et quand je fais de la musique, j'en chie, mais c'est ça que j'aime. Et du coup, cette plateforme, j'en chie un peu parce que je pense que j'ai plein de croyances limitantes. J'ai plein de filtres qui font que j'ose pas encore être totalement le personnage que je devrais être en étant moi-même. Mais du coup, ça m'excite encore plus pour y aller.
Alors moi, j'ai un processus en plusieurs étapes. Première étape, en fait, c'est vraiment de m'assurer que mon contenu répond à ce que moi j'appelle un objectif sûr. Un objectif sûr, c'est un acronyme que j'ai créé. Voilà, après qui est issu, qui est une empreinte de l'objectif SMART. Et en gros, l'objectif sûr, c'est être spécifique. Il faut que l'objectif soit ultra faisable. Il faut qu'il soit réaliste. Donc après, je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails, mais en gros, c'est de se dire, voilà, avant de partir dans tous les sens, il faut vraiment que le sujet de mon contenu, que mon contenu en soi, il réponde à cet objectif. Une fois que j'ai choisi cet objectif, et ben je réfléchis si mon contenu en fait entre dans ce que la méthode VCP, donc une méthode que j'ai créée, qui est visibilité, crédibilité, proximité. Donc en gros, ça va être l'idée de se dire est-ce que mon contenu s'inscrit plutôt dans une logique de visibilité, donc c'est-à-dire pour obtenir des connexions, obtenir des abonnés. Est-ce que mon contenu s'inscrit plutôt dans un objectif de crédibilité, donc plutôt dans une stratégie d'acquisition de clients de via un appel à l'action, est-ce que mon contenu s'inscrit aussi dans une logique de proximité, donc c'est-à-dire est-ce que ce contenu là va créer plus de liens, va créer plus de connexions avec la personne qui me suit ou qui me suit déjà depuis un petit moment, une personne qui vient de me découvrir. Et une fois que ça c'est bien défini, c'est là que je réfléchis à quel moment le contenu va rentrer dans mon planning éditorial.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tu ne pars pas au départ avec une idée bille en tête et tu te laisses groover. C'est qu'en fait au départ t'as, moi ce que j'appelle ton terrain de jeu en fait. Tu établis déjà quel va être ton terrain de jeu et donc ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là comme tu l'entends cher auditeur ou auditrice, Christopher, en fait, quand il crée son contenu, il ne part jamais, en fait, avec une... disant, ouais, on va y aller à l'intuition, on voit ce qui se passe. Ouais. Non, non. Tu vas vraiment, en fait, comment ça se passe, en fait? T'as une idée ou c'est d'abord... Attends, on va reprendre mes critères dont tu as parlé, donc sur VPC, et après, c'est l'idée arrive ou... Enfin, comment ça se passe, en fait? C'est un ping-pong, enfin... Comment tu fais?
Ouais, j'aime bien cette idée de ping-pong créatif. L'idée, en fait, c'est que... moi j'ai un Trello et un logiciel Evernote, donc en gros deux outils qui me permettent moi de pouvoir mettre toutes mes idées, de pouvoir les classer, de pouvoir les trier. En gros, si tu veux, j'ai ce que toi tu appelles ta piscine à idées, donc en gros moi j'appelle plutôt ça ma boîte à chaussures, mais après tu vois, chacun a son contenant, tu vois, le plus important c'est le contenu. Mais en gros l'idée c'est que j'ai un tas d'idées que je note au fur et à mesure en fonction des discussions que j'ai avec mes prospects, au fur et à mesure des lectures, au fur et à mesure de mon environnement. Voilà, tu marches dans la rue, tu as une idée, tu sors ta petite application et puis tu notes ton idée. L'objectif, c'est que j'ai tout ça qui est dans ces outils. Et une fois que je décide justement de récupérer une idée, je ne la récupère pas comme ça au hasard, c'est que j'ai déjà défini en amont mon planning et mon calendrier éditorial. Je sais plus ou moins de quel sujet je vais parler. Après, ça va être se dire, maintenant, je vais venir piocher mes idées pour parler de tel ou tel sujet. Piocher des idées d'exemples, des analogies, des citations, des sources. Et pourquoi pas, venir connecter les idées entre elles pour finalement trouver un angle plus unique pour aborder un sujet.
Ouais, on est vraiment, dans ce que j'appelle la créativité de survie, c'est-à-dire... On est toujours en fait dans cette logique de territoire et en fait de terrain de jeu dans lequel tu vas t'amuser. Et on est vraiment, donc c'est tes critères sur VPC, ton calendrier éditorial, à savoir, comme tu l'as dit, donc le contenu que je vais publier le mardi, il va avoir cet objectif-là, donc V, P ou C.
Ouais.
Et voilà, le jeudi, il va avoir un autre objectif, etc., etc. Et derrière, en fait, ben, donc moi, j'appelle ça la piscine à idées, toi, la boîte à chaussures. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est la piscine à idées, je te renvoie à mon podcast qui s'appelle « Écrire un livre, trier, organiser et classer ses idées ». Et c'est là-dedans où je parle en détail voilà, de la piscine à idées. Et je vais encore plus loin dans mon livre sur la créativité. Donc, voilà, deux ressources pour savoir en fait comment construire ta propre piscine à idées. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu es conscient de ça, hop, tu as juste qu'à piocher, te dire, hop, est-ce que ça rentre là-dedans? Et ouais. Bon, je pense, il y a aussi un truc dont on n'a voilà, pas parlé, mais je pense voilà, que tu dois souvent avoir en tête, c'est que tu as aussi un profil, enfin, tu as un portrait type de ton lecteur. Mmh. Tu sais vraiment aussi ouais. à qui tu t'adresses. Et ça aussi, enfin, tu n'en as pas parlé, mais je pense que voilà, c'est. Parce que je pense que c'est naturel pour toi, mais pour nos auditeurs, voilà.
Ouais.
Il y a plusieurs, tu vois, c'est vraiment plusieurs lignes en fait à bien démarquer. Donc, l'objectif, qu'est-ce que tu veux, voilà, quel est le but que tu veux avec ton contenu, voilà, donc c'est l'objectif. Est-ce que c'est spécifique, voilà, donc quant à ton objectif, ok, est-ce qu'il est sûr, voilà, est-ce qu'il est vraiment sûr cet objectif par rapport à VP ou C, et derrière, ok, bon ça c'est mon objectif, mais par rapport à mon lecteur, est-ce que cet objectif correspond, voilà, est-ce que à mon lecteur, et voilà, et ça, on est vraiment bah, dans cette histoire de ping-pong dont tu parlais, c'est donc ça. C'est vraiment ça part partout.
Ouais, parce que si en fait tu te mets à créer du contenu et que tu parles de n'importe quel sujet et que finalement bah, ça intéresse pas ton avatar, ton prospect, ton archétype de client idéal, après on l'appelle comme on veut, mais voilà, la personne qui va potentiellement payer pour te faire vivre et payer ton loyer. Typiquement voilà, c'est vraiment de savoir à qui on s'adresse, le connaître vraiment sur le bout des doigts, limite le connaître encore mieux que lui-même, pour justement lui proposer des contenus qui vont vraiment l'aider et qui vont faire un effet waouh dans sa tête pour se dire wow, cette personne-là, elle sait vraiment à qui elle parle, elle s'adresse vraiment à moi, elle m'aide et du coup en plus j'ai appliqué ses conseils et ça fonctionne. Et si tout ça voilà, c'est regroupé, et bah, du coup ça te permet justement toi d'avoir une ligne éditoriale qui est efficace et puis qui est aussi au service de ton business. Donc ça fait une paire de coups, donc c'est parfait.
Quand tu poses des questions, il y a un phénomène psychologique qui s'opère, c'est que tu peux passer pour un expert aussi. Parce qu'en gros, tu cherches l'information. Et c'est souvent ce qui se passe dans les podcasts, c'est-à-dire souvent, l'intervieweur peut passer plus pour un expert que son interviewé. Et tu vois, typiquement, ben moi, je fais un podcast sur la vente. Je pense que beaucoup de gens me perçoivent comme un expert de la vente. Pourtant, je ne fais que poser des questions.
Mais c'est vrai. Je t'avoue que c'est vrai. Alors, pour l'avoir vécu de mon côté, je fais des podcasts régulièrement. Et puis en plus, moi, derrière, j'ai écrit un livre. Et livre plus podcast, je t'avoue que ça fait un bon cocktail, en fait, pour passer pour l'expert. Alors que, en fait, non, justement, en fait, tu poses plus de questions, tu cherches, voilà, en fait, des réponses, toi, à tes propres questions personnelles. Et justement, on va faire justement la transition avec le podcast, on en parle souvent. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu l'as dit au départ, le podcast, bon, certes, il te fait, voilà, ça te fait de la pub pour ton entreprise, tu l'as fait au départ pour le fun, mais ce que j'entends également, c'est que c'est également aussi... une forme de formation, en fait. C'est une formation continue pour toi, le podcast, j'ai l'impression.
Ouais, moi, j'appelle ça des mini masterclass. Et je me dis, même si demain, j'ai que 10 personnes qui écoutent mon podcast, bon, ce qui n'est pas le cas, hein, mais au moins, moi, j'aurais appris quelque chose en parlant une heure avec une personne. Et donc ça, faut... Pour le coup, le podcast, c'est intéressant parce que par rapport à la vidéo YouTube, c'est un format qui te permet d'aller de faire des formats longs. Donc, tu vas souvent très loin dans la discussion. Et ça, enfin, moi, c'est un format que j'affectionne particulièrement. Et en plus, c'est un format où tu n'as pas encore trop de concurrence. Donc, si tu as des auditeurs qui se posent la question de créer un podcast, vous pouvez y aller. C'est beaucoup moins concurrentiel que YouTube. C'est-à-dire, sur YouTube, je crois que tu as 500 millions de chaînes YouTube dans le monde. Ça fait 1 000 milliards. Le podcast, je crois que l'année dernière, c'était... 500 000 et aujourd'hui ça doit être 1 million, donc tu vois, tu as encore de la place.
Ah, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme.
Donc, ouais, on est. Ouais, non, mais enfin, voilà. Enfin, donc, moi, pour faire du podcast depuis plus d'un an, ce que j'aime vraiment avec ce format, c'est que bah, on prend le temps, tu le dis très bien, ce sont des formats longs. On prend vraiment le temps, voilà, bah, de discuter, voilà, comme on le fait là maintenant, tu vois, où, voilà, où on échange en plus sur un sujet. C'est aussi une autre manière de consommer de l'information. Puisque voilà, sur YouTube, on est sur de la vidéo hyper cutée, en fait, ça va très très vite. Là, c'est une autre manière aussi de consommer l'information, puisque là, enfin, nous, on est vraiment plus dans une discussion. Et enfin, voilà, enfin, moi, j'adore le podcast. C'est vraiment un format qui me plaît particulièrement.
À l'origine, j'ai toujours aimé optimiser toujours toutes les activités que je faisais, donc toujours trouver le système qui allait me permettre de libérer mon temps pour réellement me concentrer sur la tâche qui, au final, va apporter de la valeur. Donc, j'ai toujours été amené à systématiser plein de choses et, en l'occurrence, pour la prise de notes, en tant que danseur, en tant que personne qui aime beaucoup lire et apprendre des nouvelles choses, très souvent, j'avais besoin... Je ressentais le besoin d'implanter un système de prise de notes qui allait me permettre à la fois de créer du contenu, puisque j'aime beaucoup créer du contenu, et à la fois de moi-même avoir une manière de bien gérer mes connaissances personnelles pour pouvoir les réutiliser d'ici 5, 10, 15 ans et faire des liens entre toutes les choses que j'apprends, puisque je change souvent de sujet. Et donc, j'ai démarré un blog sur la danse il y a l'année dernière, et voyant donc les résultats que j'arrivais à obtenir grâce à mon système de prise de notes, la productivité que je gagnais, même ma pertinence dans les propos, du coup, j'ai essayé d'en faire un système le plus précis possible et du coup, j'ai décidé de le partager sur ma chaîne YouTube destinée là à la création.
Alors justement, en fait, c'est... Donc moi, je veux parler justement en tant que quelqu'un qui adore prendre des notes partout, qui a des cahiers remplis. Enfin, j'en parle très régulièrement, tu vois, en podcast. Enfin, tu l'as même vu. J'ai des gros paquets immenses, voilà, de notes. Et alors, justement, en plus, dernièrement, j'ai écouté justement. Donc, tu m'avais conseillé d'écouter Andy Matuschak. Je mettrai les liens, de toute façon, dans la description. Si vous ne comprenez pas la prononciation, en plus, c'est une orthographe particulière. Je mettrai les liens juste en dessous. Et justement, en fait, il expliquait dans plusieurs de ses notes et dans plusieurs interviews. Justement, en fait, le truc, c'est que quand on lit une information, quand on la consomme, que ce soit un livre, une vidéo ou même un podcast, on l'écoute et enfin moi je vais le dire avec mes mots, c'est que le problème c'est qu'on l'écoute, mais est-ce qu'on a retenu finalement l'information qui a été partagée? Souvent en fait, on va être capable de retenir peut-être 5, peut-être 10% de l'info qui a été partagée, mais derrière, est-ce que tu es capable, toi, cher auditeur? Ben voilà, peut-être que tu vas écouter cette interview, mais peut-être qu'à la fin tu vas dire putain, il me manque des trucs. Enfin, ils disent des choses super intéressantes, mais en fait, tu vas pas forcément en fait les retenir derrière. Ce qui va rester finalement, c'est le sentiment qui va rester en fait de dire j'ai passé un super moment, que ce soit pour un livre. Hein, donc je veux dire j'ai passé un super moment. Ce livre est super, mais derrière quand tu veux expliquer en fait en quoi il est super, ben, souvent tu fais ouais, alors tu sais, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce passage-là ou ce passage-là, mais souvent, ça m'est arrivé, il y a des passages, en fait, c'est pas assez précis et t'as des gens qui aimeraient aller beaucoup plus loin. Et donc justement, toi, comment tu en es arrivé justement donc bah, avec la prise de notes, donc t'as dit la danse, et donc t'as commencé à accumuler en fait des notes. Comment t'en es arrivé finalement à tout ce système d'organiser finalement toutes ces notes?
Est-ce que tu veux que j'explique un peu ce que c'est que le système avant ou...
Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, vas-y.
Okay. Je pense comme là, ça, on sait tous de quoi on parle.
Exactement, parce que là, c'est vrai que nous, on parle en tant qu'un peu geek du truc, mais c'est vrai que nous, on parle un peu en tant que geek, mais il y a peut-être des gens, en fait, qui disent, mais qu'est-ce qui... Enfin, donc, j'ai donné des exemples, mais après, c'est vrai qu'on parle de système, tout ça, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu fumeux. Justement, bah, explique en fait par rapport à ton histoire, en prenant en exemple ton histoire, et ensuite bah, toute la logique derrière qui t'a amené bah, justement à beaucoup mieux organiser.
Ok, alors déjà donc le système dont on parle, c'est le second cerveau, et le but c'est réellement de favoriser la création. Du coup, en partant de cet objectif-là, il y a un système en trois phases que j'ai un petit peu synthétisé, mais qui existe de par ailleurs. La première phase, c'est la phase de capture. Donc, comme l'a dit Pascal, c'est la phase où on va lire des articles, des podcasts ou autres, et on va essayer de capturer l'information pour être sûr de ne pas l'oublier dans le futur. La deuxième étape, ça va être la phase de déconstruction. C'est une méthode qui s'appelle la méthode Zettelkasten. Ça a été créé par un sociologue qui s'appelait Niklas Luhmann dans les années 1960, par là. Et l'idée, c'est de dire que chaque contenu qu'on va consommer, en fait, c'est un empilement de concepts. Et l'idée avec justement cette méthode, c'est de déconstruire tous ces concepts pour avoir des sortes de petites briques de connaissances qui peuvent être réutilisées dans n'importe quel contexte, qui ne sont pas dépendantes d'un article qu'on va lire. Et ensuite, la troisième phase, donc ça va être la phase de reconstruction. À partir de toutes les petites briques de connaissances qu'on a déconstruites, des contenus qu'on a consommés, eh bien, on va essayer de recréer d'autres contenus derrière. Donc ça, c'est un peu tout l'écosystème du second cerveau. Et comment j'en suis venu, jusque-là, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas dire exactement, c'est au fil de mes lectures, de la découverte de Zettelkasten, qui a quand même bien influencé tout ce système. Mais ouais, voilà, c'est principalement la volonté de ne rien oublier et ensuite de pouvoir créer du contenu plus facilement.
Ok, alors justement, donc, par rapport à cette capacité en fait, de ne pas oublier les infos, parce que moi, par exemple, je fais partie des personnes qui prennent énormément de notes. Moi, par exemple, dès que j'ai un truc qui me plaît, je vais prendre mon Evernote et voilà, il y a un truc qui me plaît, je copie-colle, boum. Ou par exemple, peut-être que toi, auditeur, tu utilises par exemple Instapaper. Tu repères un truc qui te plaît, tu le captures, hop, et tu le mets dans ta boîte Instapaper. Et le truc, ce qui se passe, c'est que bon, moi, je le vois sur Evernote. Voilà, moi, j'ai des carnets en fait d'idées, j'en ai un paquet. Mais ce qui se passe souvent, c'est que ces carnets-là, ben, tu ne les utilises pas. En fait, moi, je vois, par exemple, j'ai les carnets. Bon, après, je me dis toujours, en fait, dans un coin de tête, à un moment donné, j'aimerais bien utiliser cette connaissance parce que je sais qu'elle m'est utile, mais à chaque fois que j'ai envie de l'utiliser, putain, je sais pas comment. Je la garde parce que je sais au fond de moi, j'ai ce sentiment que, putain, cette info, elle va me servir. Oui. Mais derrière, je me dis, putain, comment l'utiliser? Et moi, ce que j'ai aimé justement avec l'approche dont tu nous parles, c'est que finalement, là, cette idée que j'ai, même si elle date d'il y a plusieurs années, à un moment ou à un autre, je sais qu'elle va pouvoir me servir. C'est vraiment ça qui m'a, plu dans ce système-là. Alors, tu as utilisé un mot qui paraît un peu barbare pour les gens qui nous écoutent, c'est Zettelkasten. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Zettelkasten?
Zettelkasten en allemand, ça veut littéralement dire boîte de carton. Et donc, c'est Niklas Luhmann qui l'a inventé. Et lui, à son époque, comme il n'y avait pas encore tous les outils informatiques qui étaient aussi répandus, il utilisait des petites fiches, en fait, des petites fiches Bristol, sur lesquelles il écrivait donc une note permanente. Donc, le concept de la note permanente, c'est une idée est égale à une note. Donc, par exemple, il allait pouvoir mettre quel est le principe d'atomicité des pensées, et il allait simplement mettre la définition. Et ensuite, il avait des systèmes d'interconnexion en mettant des petits numéros au-dessus de ses cartes pour pouvoir avoir des sortes de sommaires avec l'ensemble d'un sujet qui est expliqué sur un ensemble de cartes. Et après, il rangeait ces petites cartes-là, une fois qu'il les avait triées et étiquetées, dans des boîtes de carton. Et à la fin, ça donnait un bureau qui était rempli, tous les murs étaient remplis de petites boîtes, et c'est super impressionnant. Et lui, du coup, ce qu'il a réussi à faire avec ce système, c'est que durant toute sa carrière de sociologue, donc il a réussi à écrire plus de 70 livres et 400 articles scientifiques, ce qui est quand même assez impressionnant. Je ne pense pas que la personne moyenne lise autant de livres au final. Moi, j'ai tout de suite été impressionné par ça. Et depuis que lui, il a créé ce système, il y a eu toute une communauté qui a repris ça, qui l'a numérisé. Il y a eu des logiciels qui se sont construits autour de cette idée, de ce paradigme. Mais on va en parler tout à l'heure, je pense.
Voilà, c'est la fin de cet épisode sur comment oser te lancer dans la création de contenu. Ça fait des mois, allez, je peux même dire que ça fait des années que je crée du contenu, parce que bon, vu tous les articles, enfin, tous les podcasts, toutes les vidéos que j'ai pu faire avant, même tous les mails que j'ai pu écrire, ça fait des années que je crée du contenu, et vraiment, je regrette absolument pas de m'être lancé dans l'aventure. Donc si jamais tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup? Je peux te le garantir, oui, ça vaut le coup, parce que quoi qu'il arrive, c'est une expérience qui va te servir tout le temps. Si tu veux réécouter l'intégralité des interviews, donc de mes camarades que tu as entendus pendant cet épisode,
Les liens se trouvent juste en dessous dans la description et tu pourras retrouver l'intégralité de leurs interviews. Si tu veux me dire à quel point tu as apprécié cet épisode, ben tu peux t'abonner, que ce soit à la, newsletter, blablabla, ou à la plateforme de podcast préférée. Tu vois, j'en oublie mes mots à tel point, tu vois, ça me perturbe tout ça. Ou bien tu peux également le partager sur ta plateforme préférée, voilà, si tu es sur LinkedIn, si tu es sur Facebook. Mais partage-le, dis à quel point tu as apprécié cet épisode et dis à quel point également tu apprécies ce podcast parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai l'habitude de me caresser l'ego, mais je t'avoue que ça fait du bien, voilà, de voir des personnes qui apprécient le podcast. Et t'inquiète, j'ai pas attendu que tu me le demandes pour recevoir des retours ultra positifs sur le podcast, et encore merci. Voilà, déjà encore merci à toutes les personnes qui l'ont fait, ça fait plaisir, et en fait, sans toi et sans vous tous, je continuerai pas l'aventure du podcast, donc encore merci. La semaine prochaine, on va parler de la valeur ajoutée. Parce que oui, ça c'est un truc aussi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tout le monde te dit « Ouais, mais c'est important d'amener de la valeur ajoutée. » Alors je dis « Ouais, c'est marrant ça comme concept, la valeur ajoutée, mais c'est quoi la valeur ajoutée ?» Eh bien, c'est exactement la question qu'on va se poser la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la bande originale créative. Je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode et à demain matin dans ta boîte mail. Salut !